Salut à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast quotidien du Club Hygiène. Apple avait prévenu qu'il y aurait des délais en fin d'année sur les iPhone 14 et en particulier les iPhone 14 Pro qui sont très populaires. Ça se confirme, vu comme il est difficile d'obtenir un iPhone 14 Pro avant Noël, mais il y a aussi des protestations en Chine et des émeutes à Foxconn à cause des restrictions radicales contre le Covid. On y revient dans les infos du jour. En deuxième partie d'émission, on a un petit quelque chose de sympa à vous proposer. Nous avons créé un compte Mastodon et mieux encore, c'est carrément une instance qu'on a mis en place. Avec Nicolas, ben on va tout vous raconter. Nous sommes le mardi 29 novembre, voici les actus qu'il ne faut pas manquer ce matin. À cause des mesures radicales contre le Covid, la situation sociale en Chine est de plus en plus tendue et ça peut sembler un peu dérisoire face à l'ampleur de ces tensions, mais à l'échelle d'Apple, cela signifie moins d'iPhone à vendre à Noël. D'après Bloomberg, le constructeur devra se passer de 6 millions d'iPhone 14 pour la fin de l'année, des iPhones pourtant bel et bien commandés. La raison, elle provient de Foxconn et en particulier de l'usine de Changzhou qui a été le théâtre d'émeutes la semaine dernière. Des ouvriers ont protesté contre les restrictions imposées par l'entreprise pour limiter les cas de contamination. Il y a aussi eu des problèmes avec la paye. Apple a dépêché une équipe sur le site appelée iPhone City. Mais même avec la reprise du travail normal, il manque des travailleurs sur place et la production est en retard par rapport aux commandes d'Apple. L'an dernier, le constructeur avait vendu à peu près 40 millions d'iPhone 13. On peut estimer que ça aurait dû être grosso modo le même volume d'iPhone 14 cette année. Mais voilà, il y aura moins de smartphones à vendre en décembre. L'Apple Watch Ultra ajoute une corde à son arc, ou plutôt un tuba à ses palmes. Oui, je sais, elle est un peu nulle, mais c'est le matin très tôt. Comme annoncé en septembre dernier, l'application Oceanic Plus est finalement disponible et elle transforme la montre en ordinateur de plongée. L'Apple Watch Ultra peut accompagner les utilisateurs jusqu'à 40 mètres de profondeur. C'est moins que les 100 mètres de résistance à l'eau, mais dans ces 40 mètres, la montre donnera des informations utiles sous l'eau, comme la profondeur évidemment, la limite de plongée sans décompression, la température de l'eau et tout plein de trucs indispensables aux plongeurs. L'application peut se télécharger et s'utiliser gratuitement, mais pour débloquer toutes les fonctions, il faudra s'y abonner à partir de 12,49€ par mois. À l'année, ça revient à un peu moins de 100€, ce qui commence quand même à faire un peu cher, surtout qu'il faut y ajouter le prix de l'Apple Watch Ultra. Mais pour les plongeurs occasionnels qui ne voudront pas investir dans un ordinateur de plongée à part, ça pourra faire l'affaire pendant les vacances. Orange est plutôt un très bon fournisseur d'accès fiable. Par contre, on ne peut pas en dire autant de son matériel. Bon, je ne parle pas de la Livebox, mais des autres appareils que l'opérateur lance de temps en temps, histoire de prouver qu'il n'est pas qu'un simple tuyau. Malheureusement, ces produits se ramassent généralement la tronche quelques années plus tard. Oui, tout le monde a encore en mémoire l'épisode tragicomique de l'enceinte Jingo, mais cette fois, on parle des produits de la maison connectée Orange. Le service a été lancé en 2019 et va finalement être arrêté en janvier prochain. Orange vendait des ampoules, des caméras, des prises ou encore des détecteurs de mouvement. Les utilisateurs actuels pourront demander un remboursement pour les produits achetés après le 15 janvier 2021, mais pour les appareils plus anciens, il faudra soit les recycler, soit espérer que des plateformes domotiques ouvertes puissent les prendre en charge. Mais cela va demander des manipulations qui ne seront pas forcément à la portée des clients à qui Orange vendait son service de maison connectée. Après cette histoire, c'est sûr que ça va devenir vraiment compliqué de continuer à acheter du matériel Orange. Le chaos chez Twitter a poussé pas mal d'entre nous vers d'autres réseaux sociaux, en particulier vers Mastodon. Cette plateforme d'origine allemande a une conception bien particulière, elle est totalement décentralisée et chacun peut créer sa propre instance pour avoir son propre réseau social à la Twitter en quelque sorte. Du coup, avec l'équipe, on s'est dit que ce serait dommage de passer à côté de ça. Nicolas a mis les mains dans le cambouis et il a tout simplement créé une instance Mac Génération sur Mastodon. Salut Nicolas.
Salut.
Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on va y trouver sur le compte Mastodon de Mac Génération ?
Alors, pour l'instant, on a juste mis en place une automatisation qui publie en fait toutes nos actualités dès leur publication, comme ce qu'on a fait sur Twitter, en fait. Voilà, ça c'est la même chose en gros que sur Twitter, mais on s'est dit, bah, si on ouvre un compte Mastodon, peut-être qu'on pourra en faire un peu plus. Pourquoi pas utiliser le compte comme un nouveau canal de communication avec vous, avec les lecteurs ? C'est quelque chose qui pourrait être plus intéressant que sur Twitter, notamment parce qu'il y a plus de place pour s'exprimer, mais bon, pour l'instant on ne sait pas encore trop ce qu'on va en faire, c'est tout nouveau.
Alors, on aurait pu se contenter de créer un compte sur n'importe quelle instance existante, mais finalement, on y est allé plein pot avec notre propre instance. C'est quoi la raison, finalement ?
Alors, tout d'abord, de la curiosité de ma part. c'est moi qui gère les serveurs de Mac Génération, et j'avais envie de voir un peu comment ça fonctionnait, comment on pouvait créer une instance. Mais au-delà de cette curiosité personnelle, c'était aussi un choix parce que l'instance Mastodon que vous choisissez, je ne sais pas si vous avez lu l'excellent article de Félix sur le sujet, mais donc Mastodon, c'est une plateforme qui est décentralisée où il y a plusieurs instances séparées, donc il faut choisir une au départ. Et c'est très important d'en choisir une bien, notamment parce qu'une instance a ses propres règles de modération. C'est souvent une équipe de bénévoles qui s'en charge d'appliquer ces règles. On ne sait pas forcément où on s'engage. Donc en créant la nôtre, c'est nous qui définissons nos propres règles. On est nos propres modérateurs. On peut faire un peu ce qu'on veut. Et puis on contrôle tout, y compris donc la partie technique, ce qui veut dire que l'instance continuera de fonctionner aussi longtemps que nous on le veut. Ça, c'est important parce qu'effectivement, faire tourner une instance Mastodon, c'est pas gratuit. Il faut des serveurs, c'est un coût qu'il faut payer d'une façon ou d'une autre. Et les autres instances ne sont pas toujours financées correctement. Il y en a qui ont déjà fermé à cause de ça, parce que ça coûtait trop cher d'un coup, ou alors tout simplement la personne qui l'a créée ne voulait plus l'avoir. Donc c'est vrai qu'en créant notre propre instance, on est sûr de garder le contrôle au moins sur ça.
Alors si je comprends bien, vu qu'on a notre propre instance Mastodon, est-ce qu'à terme, on peut imaginer que des lecteurs pourront y créer leur propre compte ?
Alors, c'est compliqué. Techniquement, oui, c'est fait pour, mais pour l'instant, on a gardé l'instance fermée, c'est-à-dire réservée à nos propres usages, parce qu'il ne faut pas perdre de vue plusieurs aspects qui sont aussi techniques que humains. Alors le plus facile, c'est le côté technique, c'est que comme je le disais avant, pour faire tourner une instance Mastodon, il faut un serveur, et ça peut vite représenter des coûts importants, plus qu'on ne le pense au départ. Si on veut vraiment une instance ouverte, par exemple, il faut assez vite prévoir plusieurs serveurs, il faut prévoir une infrastructure qui n'est pas du tout en place actuellement. Là, j'ai mis en place quelque chose d'assez simple pour nos propres besoins. Mais oui, et puis il y a aussi des problèmes liés à la manière dont Mastodon est fait. Je reviendrai sur la question, d'ailleurs, cette question de la technique dans un futur article, si ça vous intéresse. Mais en gros, il faut anticiper des besoins assez importants, même si, par exemple, on n'avait que quelques centaines d'utilisateurs. Rien que pour ça, il faudrait déjà une grosse infrastructure. Donc ça, c'est la partie technique. Et à la limite, c'est pas la plus compliquée, parce que voilà, il suffit de mettre des moyens, c'est pas impossible. Par contre, ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est aussi l'aspect humain à envisager. Et c'est la modération. En fait, si on a une instance et que vous pouvez créer un compte et publier n'importe quoi, ce que vous publiez sur cette instance, en fait, est notre responsabilité légale. Et il faudrait de la modération. Donc, ça veut dire passer du temps à surveiller tout ce qui a été publié sur l'instance. C'est une charge de travail qui peut devenir très importante, même s'il n'y a pas énormément de monde à nouveau. Il suffit qu'il y ait quelques comptes qui publient beaucoup de choses. Et pour l'instant, on n'a pas forcément les moyens et envie de mettre les moyens humains pour modérer ça. C'est vrai que si on change d'avis, évidemment, on vous préviendra. Peut-être qu'on pourrait faire une ouverture à certains membres du club, ou on ne sait pas trop. Mais c'est vrai que pour l'instant, du coup, on préfère la garder fermée pour notre usage.
Alors, notre compte Twitter, il est toujours en ligne. Ça risque pas de changer à court terme. Enfin, à moins que Twitter ne finisse par mourir, ce qui peut toujours arriver, vu les circonstances.
Alors, effectivement, tout peut arriver. Après, Twitter, ça reste une énorme plateforme. Et nous, on n'abandonne pas du tout Twitter en créant un compte sur Mastodon. C'est un canal de communication supplémentaire. Mais si vous utilisez toujours le réseau social à l'oiseau bleu, vous pouvez nous suivre. On a notre compte avec plus de 450 000 abonnés et il ne va pas disparaître de sitôt. Sauf si, comme tu le disais, il y avait une catastrophe qui faisait que le site lui-même disparaissait. Mais donc, si vous préférez Mastodon, vous pouvez aussi nous suivre par ce biais. Pour l'instant, c'est exactement pareil que sur Twitter, c'est le même contenu, mais qui sait, si vous êtes nombreux à nous y suivre et si vous demandez d'autres contenus, peut-être qu'on en proposera. Alors, je rappelle pour vous abonner. Donc, si vous voulez vous abonner, il faut que vous tapiez dans le champ de recherche de votre client Mastodon ou de votre instance web, @macgeneration. Ça, c'est comme sur Twitter. Mais juste après, @social.macg.co. Donc, je répète, voilà. @macgeneration@social.macg.co. Voilà, c'est un des défauts de Mastodon, c'est que c'est pas aussi simple à retrouver, mais grâce à ça, vous devriez y arriver. Et on mettra des liens, évidemment, dans la description de ce podcast.
Eh bien, merci pour cette annonce et pour ce tour d'horizon de notre nouveau compte Mastodon. Salut Nicolas.
Salut.
Et en attendant de vous voir nombreux sur Mastodon, merci de nous avoir suivis dans ce podcast et à très bientôt pour de futures aventures.